On va aller ensemble dans un mot de prière avant de commencer. Bien, Père éternel, on veut te rendre grâce pour cette journée qui commence, Seigneur, devant toi, dans ta présence, avec ton Église qui est en train de se rassembler, Seigneur, pour se pencher sur ta parole, pour chanter tes louanges, pour élever ton nom, Seigneur, pour recevoir de toi un message pour nos cœurs, Seigneur. Seigneur, ce matin, on a besoin de toi. On a constamment besoin de toi, mais on est assemblés ce matin en Église pour recevoir de toi, Seigneur, et puis pour donner, Seigneur, en ton nom, l'amour de Christ aux frères et sœurs, à toute personne qui vient ici ce matin. On te demande de bénir ce temps où on réfléchit, Seigneur, à cette merveilleuse révélation de ta parole, mais tout spécialement au miracle, Seigneur. Le miracle que tu as fait dans ma vie, miracle que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur, et qui souvent soulève toutes sortes de questions chez ceux qui doutent, qui sont sceptiques devant ton existence, devant ta gloire, ta majesté, ta puissance, Seigneur. Je te demande, Père, de nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Il y a eu une apparition pendant la prière, c'est parfait. J'allais remettre la réponse à ta question un petit peu plus loin, mais... Oh. Téléportation, il est là. Parfait. Alors, on est dans le cours « La Bible, livre humain ou divin ». Et puis, on est à la dernière leçon. Donc, pour les trois prochaines semaines, je crois, il n'y a pas d'activité à 9 h. Et puis, ensuite de ça, pendant le mois de janvier, c'est notre mois sur la prière, de 9 h à 10 h. Et puis, en février, les cours reprennent, d'accord? On est à la leçon 11. Le titre de la leçon, avec tous ces miracles, « La Bible ne serait-elle pas tout bonnement un mythe? » Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est suffisamment fort. OK, parfait. Simplement mentionner, donc, le cours a été basé sur deux livres, un livre de Kevin DeYoung puis un livre de Craig Blomberg. Vous pouvez trouver tout ça sur le site web, aller écouter les audios qui manqueraient, puis les notes de cours se trouvent là aussi. Avant de commencer la leçon de ce matin, je voudrais juste revenir sur une question qui avait été soulevée dans Matthieu 5, 18, si je ne me trompe pas, c'est tout ça? Par François. J'avais oublié de l'adresser. Vous pouvez tourner avec moi si vous avez vos Bibles. François l'avait soulevé dans une leçon, puis je voulais répondre à sa question dans la leçon sur l'inhérence. Et puis j'ai oublié, alors je fais juste une petite parenthèse très brève. Donc dans Matthieu 5, 18, c'est Jésus qui parle. On va commencer au verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu... pour abolir la loi et les prophètes, ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La question que François posait, c'est, mais si Jésus a dit ça, est-ce que ça laisse la place à des erreurs de copistes? C'est un peu ça le sens de ta question, François? Oui, c'est ça. OK. Donc, la question de François, c'est est-ce que Jésus n'est pas en train de dire que la Bible va être parfaitement conservée, même dans sa transmission? Est-ce que ce serait ça qu'il serait en train d'adresser? Bien, au premier plan, non. Ce n'est pas de ça dont Jésus est en train de parler clairement. Il est en train de parler de l'accomplissement de l'abolition. D'accord? Au premier plan, c'est ça. Là, ce que Jésus est en train d'adresser, c'est est-ce qu'il y a des lois qui sont révolues? Est-ce qu'il y a des lois qui sont rendues caduques? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont plus vraies? Puis Jésus est en train d'adresser la question parce que Jésus est en train d'adresser la question, est-ce que ces enseignements viennent contredire la loi? Est-ce que ces enseignements viennent contredire l'Ancien Testament? Puis Jésus dit non, pas du tout. Mes enseignements, c'est l'accomplissement. Ma vie, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Mes enseignements sont en harmonie avec l'Ancien Testament. Et oui, donc il y a un certain nombre de lois qui sont accomplies. C'est pour ça qu'on aime le terme accompli plutôt que aboli, hein? Donc, ce que Jésus vient faire, c'est qu'il vient accomplir, par exemple, tout le système sacrificiel. Ça ne fait plus de sens, à moins que ce soit comme un mémorial, mais ça ne fait plus de sens de sacrifier des animaux, puisque Jésus-Christ est venu offrir sa vie en sacrifice. Donc, au premier plan, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. D'accord? Et donc, ce qu'il dit ici, c'est qu'il n'y a aucun trait de la loi... aucun même un iota, un petit point de la loi qui va être rendu caduque. D'accord? Je ne pense pas que Jésus est en train d'induire qu'il n'y aura aucune erreur de copiste qui va se faire à travers les siècles. Évidemment, ma réponse est théorique. Il aurait fallu être là puis poser la question à Jésus. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que? Parce que vous vous rappellerez peut-être dans le cours, une des choses qu'on a mentionnées, c'est que la manière que Jésus traite l'Ancien Testament, la manière qu'il cite l'Ancien Testament, c'est très, très clair que Jésus croyait que le livre qu'ils avaient entre les mains à l'époque, ou les rouleaux, là, on s'entend, ce n'était pas un livre comme on le conçoit nous, les rouleaux qu'ils avaient entre les mains étaient fidèles, c'était fiable comme parole de Dieu. Donc, d'une part, c'est clair que Jésus croyait ça par son usage lui-même de l'Ancien Testament. Si on avait demandé à Jésus, est-ce que ça veut dire, Jésus, que tu es en train de nous dire que il n'y aura jamais aucun copiste jusqu'à ce que le ciel et la terre passent qui fera une erreur. Mon impression, c'est qu'il n'aurait pas dit « il n'y aura jamais d'erreur ». Je ne penserais pas que c'est ça qu'il aurait dit. Est-ce que ça répond à ta question, François? Vas-y. Oui. Si Jésus est en train d'induire que les textes étaient entièrement fiables et qu'il n'y avait aucun point, ben à ce moment-là, Jésus a induit une erreur. Fait que j'ai pas l'impression que c'est ça. Stéphane, tu voulais dire quelque chose? Ça va. Fait que je pense pas que Jésus est en train d'affirmer qu'il n'y aura jamais une erreur de copiste qui va se faire à travers le temps. Puis c'est clair qu'au premier plan, la question qu'il est en train d'adresser, c'est pas une question de texte écrit, c'est une question d'accomplissement ou non, d'abolition ou non de la loi. Ça, c'est clair que c'est le premier sujet de sa réponse. Par le fait même, il dit non, la loi doit être entièrement tenue en compte, elle demeure jusqu'à la fin. Il n'y a rien. Et lorsqu'il dit qu'il va être retranché, je ne pense pas qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas personne qui va prendre son efface et qui va effacer. C'est quelqu'un qui va venir nier un article de loi, nier quelque chose, contredire, puis dire « ça, c'est plus bon ». C'est super important, cette déclaration-là de Jésus, parce que ça nous oblige, nous, à faire nos devoirs, puis aller voir l'Ancien Testament, puis dire « OK, donc, qu'est-ce que je dois faire avec tel passage dans l'Ancien Testament ?» Comment est-ce que je dois le comprendre? Jésus n'est pas venu le contredire, ce passage-là. D'accord? Oui.
Je peux juste rajouter qu'à l'époque de Jésus, déjà, il travaillait avec des traductions aussi. Donc, il ne s'agissait même plus d'une transmission exacte du texte original. On parlait d'une traduction. Il y a toujours des choses qui sont perdues dans la traduction, de toute façon. Lost in translation, en quelque part. Fait que c'est pas là, le point de la lettre, c'est l'esprit de la loi. Là.
Je vais répéter ce que tu as dit, là, juste parce qu'on n'a pas un micro disponible ce matin. Mais donc, ce que Stéphane dit, c'est que déjà à l'époque de Jésus, il travaillait avec des traductions. Il ne travaillait pas avec le texte dans la langue originale. Et que donc, à partir du moment où tu as une traduction, tu n'as même pas les mêmes lettres nécessairement. Dans le cas de Jésus, il ne travaillait probablement pas avec la Septante, par contre. On n'était pas en grec, on était probablement en hébreu. C'est pour ça qu'on a des paroles en araméen, tout ça. Mais effectivement, je veux dire, les apôtres eux-mêmes vont passer leur temps à plusieurs reprises à citer la Septante. La Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. D'accord? Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où tu vas vers une traduction, ben, il y a un « i » qui s'est déplacé à quelque part, parce que nous autres, les « i », on ne s'en sert pas de la même manière que les Hébreux. Fait que ça, c'est sûr. Ça serait, je pense, la meilleure réponse que je pourrais te donner, là, François. OK. Non. OK, bien, je vais prendre ton commentaire, puis je vais juste faire un petit bout là-dessus vite, vite. François, il dit, bien, il est satisfait de la réponse, il ne dit pas que Jésus ment, juste pour l'enregistrement. Puis François, ce qu'il dit, c'est que, répète-moi ta phrase, t'as très bien dit. qu'il y a une apparente contradiction entre ce que Jésus dit et les faits historiques. Okay? Ça, c'est super important. On l'a adressé déjà, okay, cette question-là, puis je reviens là-dessus brièvement. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui veut attaquer les Écritures ou enlever de l'autorité aux Écritures peut prendre une situation comme celle-là, puis il peut dire, mais regardez, on a une situation où, écoutez, je n'ai pas beaucoup d'options, là. Jésus semble vraiment faire une erreur historique. D'accord? Le problème avec ça, c'est que je sors exactement comme François dit, je sors le texte de son contexte. Ce n'était pas une question à ce moment-là. Ce n'était pas une question de savoir si est-ce que les copistes ont fait une erreur dans leur travail de copie. Ce n'était pas une question. Ils ne se posaient pas cette question-là. Donc, si je voudrais savoir ce que Jésus en pensait, il faudrait que je puisse aller devant le Jésus de l'époque à ce moment-là puis lui dire, « Donc, est-ce que tu es en train de nous dire non seulement que aucun point de la loi va être aboli, mais tout va être plutôt accompli. Mais en plus de ça, étant donné que tu fais référence au texte écrit, tu es en train de nous dire qu'on ne perdra jamais une seule lettre du texte inspiré écrit. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? » Il aurait fallu poser la question comme ça. D'accord? La question qui est posée, ce n'est pas ça la question qui est posée à Jésus, puis ce n'est pas ça qu'il est en train d'adresser à ce moment-là. Et donc, lorsque je le sors du contexte, bien, j'arrive à quelque chose de faux. Puis ça revient un petit peu à ce que je vous disais lorsque je mentionnais la semaine dernière. Quand, admettons, vous avez un psaume qui va parler que le soleil, dans sa course, est allé se coucher. Avant de dire qu'il croyait que la Terre était le centre de l'univers, il aurait fallu que je puisse aller m'asseoir avec lui et dire, « Es-tu en train de nous dire, selon toi, que la Terre est au centre de l'univers et donc tu es en train de définir une course réelle? Tu penses vraiment que le soleil va faire dodo? C'est ça que tu es en train de nous dire? » Vous comprenez? Donc, il faut que j'aille dans l'esprit de cette époque-là avant de dire, bien là, c'était des ignares. Parce que, je veux dire, sur cette base-là, il y a un million de choses où nous autres aussi, on peut apparaître comme des ignorants parce qu'on s'exprime, puis on sort les choses du contexte, puis on est en train de dire quelque chose de faux. Le jour où un journaliste décide de découvrir mes enseignements, là, je dis tellement souvent des niaiseries avec cynisme, vous savez? Par exemple, je veux dire, on devrait laisser mourir... Le corps de la planète, parce qu'il y a trop de monde sur la Terre. Si je crois que l'être humain n'est pas un être sacré qui a été créé à l'image de Dieu, bien, si tu enlèves à partir du « si », tu peux m'en faire dire des affaires. Vous comprenez? Fait qu'il y aurait des drôles de montages intéressants à faire avec moi. Le Journal de Montréal pourrait se nourrir pendant des semaines. C'est bon? Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut se poser la question à quel sujet Jésus est en train d'adresser et la question moderne que j'apporte sur le texte, est-ce qu'il répondait à cette question-là? On le fait constamment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, vous comprenez? Ça ne veut pas dire que ma question moderne, je ne peux pas la poser à la Bible. Mais je dois, dans les réponses que je vais trouver dans la Bible, comprendre ce qu'eux sont en train de dire pour après ça faire le chemin qui manque et dire, donc, voici ce qu'ils croyaient, voici ce qu'ils déclarent, on peut en déduire que. OK? Puis ça, on fait ça constamment. On le fait constamment à travers les enseignements. C'est bon? On vient à notre sujet, qui n'est pas un sujet sans importance quand même, toute la question du miraculeux dans la Bible. Alors, est-ce que le miracle, les miracles dans la Bible font de facto? La Bible, c'est un mythe, parce que la Bible rapporte des miracles. Il arrive de temps à autre que nous entendions la déclaration suivante, « La science moderne a prouvé que les morts ne ressuscitent pas. » Cette déclaration est-elle exacte? Est-ce que la science a démontré que les morts ne ressuscitent pas? Parce que vous allez l'entendre, d'accord? La science a démontré que les miracles ne se peuvent pas. C'est une déclaration ridicule, d'accord? Ridicule, dans le sens que la seule manière que la science pourrait démontrer que les miracles ne se peuvent pas, c'est qu'elle démontrerait que tous les miracles rapportés n'étaient pas des miracles. C'est la seule manière. Parce que par définition, un miracle, c'est anecdotique. C'est exceptionnel. Donc, si la science peut démontrer que les miracles ne se peuvent pas, il va falloir qu'elle puisse démontrer que tous les miracles rapportés étaient soit des niaiseries, soit des hallucinations, soit que ça s'expliquait scientifiquement, puis dans le fond, ce n'était pas un miracle. D'accord? Donc, mais c'est sûr que placer dans une phrase comme ça un chrétien qui ne prend pas le temps d'écouter ce qui vient d'être dit, va avoir l'air un petit peu fou, puis il dit... Tu peux-tu me faire un miracle? Ben non, c'est pas une médonge, je suis désolé. OK, tu peux-tu me prouver que les miracles n'existent pas, toi? Donc, vas-y, examine tous les miracles rapportés, puis démontre-moi qu'ils sont tous faux. Là, on va pouvoir faire la démonstration. Donc, on est dans le domaine de la probabilité. C'est ça qu'on est. C'est dans ce domaine-là qu'on est. Commençons par dire qu'avec l'avènement, avec l'arrivée de la mécanique quantique, qui est l'étude de l'échelle du monde à l'échelle atomique, d'accord? Il y a toutes sortes de choses qui ont été remises en question avec l'avènement de la mécanique quantique, et c'est vraiment pas mon domaine, fait que je n'essaierai pas d'avoir l'air plus intelligent que je le suis ou plus cultivé que je le suis. Je vais juste mentionner ça rapidement. Le principe d'incertitude de Heisenberg, j'ai pris le temps d'aller lire un petit peu là-dessus pour comprendre c'était quoi cette affaire-là. Mais en gros, ce que ça induit, c'est que lorsqu'on arrive à une échelle atomique, il y a des comportements qui sont absolument imprévisibles. Puis c'est ça la théorie de l'incertitude, c'est qu'à une certaine échelle, il n'y a pas de loi naturelle qui peut nous donner l'information. C'est une hypothèse. Je ne sais pas jusqu'où c'est rendu scientifiquement comme affirmation. Mais ce que ça a fait, c'est que les philosophes scientifiques, plusieurs, sont de moins en moins portés à affirmer que le miraculeux est impossible. Parce qu'il y a des choses qui sont imprévisibles, d'accord? Et donc, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est hors du champ de la science. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle la science peut se prononcer. Les miracles ne devraient donc pas être définis comme une violation des lois naturelles ou de l'univers, mais plutôt des événements anecdotiques transcendant celles-ci ou les suspendant. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, David. Oui. Merci. Merci. L'explication naturelle n'est pas toujours l'explication la plus probable devant des phénomènes qui seraient plutôt surnaturels. Là, vous allez voir, j'aime ce que Craig Blomberg fait comme argument, d'accord, par rapport au surnaturel ou par rapport au miraculeux. Comme on vient de le dire, pour prouver qu'un miracle est impossible, il faudrait prendre tous les miracles rapportés et démontrer que ça n'en était pas des miracles, à quelque part. Autrement, on est dans la probabilité. Okay? On est dans un autre champ. Puis c'est ça que Blomberg prend ici. C'est intéressant. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Puis je pense que c'est intéressant des fois quand même d'ouvrir cette porte-là lorsqu'on est en train de discuter avec des gens. Puis j'espère à quelque part que ça va fortifier votre foi aussi, ça. Une étude fort intéressante réalisée par Craig Keener. Vous allez trouver ça facilement. Il y a deux volumes qu'il a publiés qui s'appellent Miracles, juste en anglais malheureusement. Alors, ce que Craig Keener a fait, c'est un érudit, c'est un étudiant, puis il a décidé d'adresser cette question-là qui est un peu comme à côté des Écritures parce qu'il est allé vers l'expérience humaine. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a examiné autant qu'il pouvait des centaines de miracles rapportés. D'accord? Puis, il a examiné ce qu'on avait comme information sur les miracles les plus crédibles à travers l'histoire du christianisme, tout simplement. Et puis, il prend le temps de les rapporter pour dire, c'est quand même une expérience beaucoup plus commune que ce qu'on voudrait admettre généralement. Et ce à quoi lui s'est particulièrement intéressé, c'est des guérisons miraculeuses survenues suite à des prières connues. Donc, une église prie pour quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, boum. Mais après ça, il a pris le temps aussi d'aller examiner des parallèles contemporains entre des miracles qu'on trouve dans la Bible et puis des miracles qui se passent aujourd'hui, des miracles qui sont rapportés, d'accord? Puis en somme, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fin de compte, il y a quand même des millions de personnes qui estiment avoir vécu une expérience similaire. Je vais y revenir à ça, d'accord? Mais donc, ce qu'il est en train de dire, tout simplement, c'est qu'il y en a Lui en a examiné des centaines. Il y en a des centaines qui, sur le plan des témoins, sur le plan des gens qui peuvent voir, c'est crédible. Scientifiquement, on n'arrive pas à l'expliquer. On parle d'un miracle, d'accord? Alors, ce que certains vont dire, c'est qu'ils vont dire, OK, il y a des miracles rapportés, puis pour autant qu'on peut vérifier avec les témoins, ça semble être ça qui s'est passé. On n'a pas de raison, sinon l'improbabilité scientifique, de douter que ça se soit produit. Mais il y a plein d'autres religions qui rapportent des miracles aussi. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose par rapport au christianisme, d'accord? Parce que vous allez entendre ça aussi, il y a des miracles dans d'autres religions. Je reviens tantôt là, sur l'approche de Keener, j'y viens tout de suite après, d'accord? Bien, premièrement, on n'essaie pas de démontrer scientifiquement que les miracles sont possibles. OK, ça serait aussi fou pour nous d'essayer de démontrer que les miracles sont possibles scientifiquement. Il faudrait vraiment avoir un deal avec Dieu, je ne sais pas, pour que ça se passe là, sous tous les instruments de mesure scientifiques existants à ce moment-là. Donc, on n'essaie pas de démontrer que ça existe, que c'est possible scientifiquement. Tout ce qu'on veut dire, c'est que c'est probable. C'est pas improbable, c'est probable. C'est juste ça qu'on essaie de faire. Autrement, ça serait un peu fou pour nous de se lancer dans cette quête-là, de la même manière que c'est une déclaration un peu folle de dire « La science a prouvé que les miracles ne se peuvent pas. » D'accord? Deuxièmement, le fait que d'autres religions se réclament du miraculeux, bien, ça remet au moins en question l'idée que les miracles n'existent pas. Au minimum, ça va dans ce sens-là. Troisièmement, il n'y a pas d'autres grandes religions. Okay? Il y a des sectes, il y a des mouvements mystiques, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'autres grandes religions qui placent cette notion-là du miracle autant au cœur de son histoire que le christianisme. Ce n'est pas fondé de la même manière. Si vous pensez au bouddhisme, tout ça, ce n'est pas construit de la même manière. La notion de miracle est au centre même de toute notre espérance. La résurrection de Jésus, par exemple. D'accord? Toute notre espérance est fondée sur un miracle, une résurrection. Et enfin, quatrièmement, le christianisme admet et reconnaît l'existence de manifestations sataniques. Donc, on pense que oui, il y a des contrefaçons qui sont opérées par le diable et par ses sbires, mais aussi aux contrefaçons faites par des charlatans. Donc, le christianisme n'affirme jamais que tous les miracles rapportés sont des miracles, au contraire. D'accord? Alors, ce que Blomberg fait ensuite, c'est qu'il part de cette étude faite par Keener, qui a juste pris le temps de rapporter des centaines de miracles, puis il dit, OK, allons maintenant vers notre expérience personnelle. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je vous avoue que je suis tellement dans l'approche où j'essaie d'être le plus rationnel possible quand je discute avec les gens. Je vais aller dans mon expérience personnelle de mon plus grand miracle, qui est ma nouvelle naissance. Ça, j'ai pas de problème, je le fais régulièrement. Mais de là, aller parler, par exemple, de cette fois où je priais pour mon frère, je l'ai compté souvent ici à l'église, je priais pour le salut de mon frère, puis ça m'est juste arrivé une fois, ça. Okay? Mais je priais pour le salut de mon frère. J'étais sur l'autoroute 10. J'étais à peu près à la hauteur de l'entrepôt IKEA. C'était avant la conversion d'Hugo. Je braillais comme un bébé. Tellement à cœur que le Seigneur vienne le sauver. Puis à un moment donné, j'ai eu une paix incroyable. Je savais qu'Hugo allait être sauvé. Puis j'ai jamais revécu ça personnellement. Ce serait cool si ça se passait toujours comme ça. Je n'ai jamais vécu. À partir de ce moment-là, là, je faisais juste dire merci au Seigneur. Je sais, c'est correct, c'est cool. Je rendais grâce. Je ne suis pas en train de dire que c'est la méthode qu'il faut prier, vous comprenez? Je ne crois pas que c'est comme ça que la prière se fait tout le temps ou que c'est comme ça qu'elle doit se faire. Pour moi, j'ai vécu un miracle. Dieu m'a donné une information avant le temps, puis il m'a donné cette confirmation-là. Maintenant, mon frère s'est converti. Pour autant qu'on peut définir une conversion chrétienne, c'est une vraie conversion chrétienne. Puis si on parle d'un changement de vie, on parle d'un changement de vie. Quelqu'un qui va aller étudier la conversion d'Hugo Étier, il va dire, OK, pour autant qu'un être humain peut vivre une expérience de conversion, ça en est toute une. Puis s'il va étudier l'époque, comment ça s'est passé, ça en était toute une aussi. Je veux dire, la seule chose que la personne peut dire, elle a deux options. C'est une coïncidence, copain. C'est juste une coïncidence, ou bien tu mens. C'est ces deux options. Sur le plan personnel, vous comprenez que je n'essaierai pas de convertir quelqu'un avec mon histoire. Mais c'est mon expérience, je l'ai vécu, puis ceux qui me connaissent assez savent que je ne suis pas très porté sur la chose. Donc, ça devrait être un petit peu plus crédible encore à ce moment-là. Mais c'est toujours juste mon expérience à moi. Alors, la réalité, c'est que plusieurs d'entre vous ici ce matin, puis lorsqu'on est toute l'Assemblée, encore plus, plusieurs d'entre vous avaient été témoins ou avaient vécu quelque chose de miraculeux qui, même lorsque vous le regardez longtemps après, à esprit reposé, tout ça, vous dites, je ne peux pas l'expliquer autrement que par une intervention divine. C'est la réalité. Possiblement que la majorité des gens ici ont vécu ça. D'accord? On est quand même dans une église. On a tendance à se grouper un peu, les croyants. Fait que peut-être qu'il y en a plus ici que dans la population générale. Mais ce que Keener a fait, c'est qu'il est parti de ça, puis à partir d'un sondage qui a été fait en 2006 aux États-Unis, on sait que les Américains, c'est des êtres très crédules. Il n'y a pas beaucoup de foi à l'extérieur des États-Unis. C'est encore une fois, je suis sarcastique, hein? On est quand même en Occident avec les États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup de places sur la Terre où il y a beaucoup plus de gens qui croient en quelque chose d'autre que l'athéisme. Et donc, à partir de ça, il a fait une extrapolation. D'accord? Il a dit, si la statistique du nombre de personnes aux États-Unis qui estiment avoir vécu ou avoir été témoin d'un phénomène surnaturel, une intervention divine, on ne parle pas d'un fantôme, là, d'accord? Donc, on n'est pas là dans le paranormal, c'est pas de ça que je parle. Une manifestation de Dieu, une réponse à la prière, un miracle, des choses comme ça. On parle d'une personne sur 35. D'accord? Une personne sur 35. C'est pas rien quand même. Fait qu'extrapoler ces 200 millions de personnes actuellement vivant sur la Terre qui ont vécu quelque chose de similaire. D'accord? Puis la réalité, c'est que si moi je prenais le temps juste de. C'est ce que Blomberg fait dans son livre, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit bon, OK, lui, il rapporte deux situations qu'il a vécues semblables. Mais après ça, il dit, OK, il y a ma mère qui a vécu une situation similaire. Après ça, puis il donne juste deux, trois exemples. Mais il dit, quand je fais le tour juste de mes proches, je suis rendu à 10 quand même. T'sais? Puis, je comprends qu'il y a des gens qui vous... Tu sais, il y a des chrétiens qui rapportent un miracle là, toutes les semaines. C'est peut-être pas les plus crédibles, d'accord? Mais c'est pas de ça dont on parle. Là. On parle de chrétiens qui vont... vivre ou être témoin une, deux, trois, 10 fois dans leur vie de choses semblables, où il dit, j'ai beau l'analyser sous tous ses angles, ce n'est pas juste une coïncidence divine. Vous connaissez cette expression-là? Une coïncidence divine. Des fois, il se passe un petit quelque chose, tu te dis, oh boy, le Seigneur savait ce qu'il faisait. On ne parle pas de la providence, d'accord? On ne parle pas de la providence divine. La providence divine, c'est lorsque Dieu souverainement orchestre les choses. Oui, la providence divine peut venir en réponse aux prières, mais on parle de réponse aux prières. J'ai exprimé quelque chose, j'ai demandé à Dieu quelque chose, bam, Dieu le fait. D'accord? Alors, par exemple, je vais vous faire une nuance que moi je ferais personnellement si je le partageais avec des gens. Il y a à peu près 15 ans, à un moment donné, j'avais un petit dada. Je rêvais d'avoir un petit Suzuki 4 pattes. Tu sais, les affaires bien lettres qui sont montées comme des cubes bien hauts, là. Mais tu sais, on n'avait pas d'argent pour ça, puis fait qu'à un moment donné, je passe devant un, puis j'ai juste dit au Seigneur, ah, ça serait le fun à un moment donné. Puis j'ai oublié ça complètement. J'ai complètement oublié. C'est pas vraiment une prière, vous comprenez? C'est pas comme, je n'étais pas en train de pleurer pour avoir mon quatre pattes. Mais j'ai même pas réalisé, quelques temps plus tard, peut-être un an plus tard, mon père en a acheté un. J'ai pas fait de lien. Je pensais plus, puis quand je le voyais, j'étais pas là. Oh, ça serait le fun. J'ai aucun lien. En un, mon père m'appelle, il disait, hey, Yannick, que je me débarrasse de mon quatre pattes, tu veux-tu? Là, je disais, ah, Seigneur, t'es vraiment incroyable. Je me suis rappelé d'avoir eu cette pensée-là que j'avais exprimée à Dieu, mais ce n'était pas une prière insistante. Puis, fait, vous voyez, est-ce que c'est une réponse aux prières? Peut-être. Je vois ça comme une provision, une grâce, une bénédiction de Dieu. Disons que je ne le mettrais pas dans mes grands miracles, vous comprenez? Par contre, la prière pour mon frère, là, on est ailleurs. Là. C'est un autre domaine pour moi, dans mon histoire à moi. Alors, ce que Blomberg fait, c'est qu'il dit, écoutez, ça, c'est quand même une réalité. L'étude que Keener a faite tend quand même à démontrer qu'il y a plusieurs millions de personnes sur la Terre qui ont vécu des expériences similaires, d'accord? Et donc, à un certain moment donné, ça dépasse l'anecdote quand même. On construit beaucoup de choses. Il y a des sciences, de la statistique qui développent toutes sortes d'études sur la population à partir de choses semblables, vous comprenez? On vit à une époque où, dans la pensée populaire, les gens disent que la science a démontré que les miracles ne se peuvent pas. Ça ne va peut-être pas faire partie de nos études statistiques. D'accord? La réalité, c'est que c'est une composante importante de l'être humain quand tu dis que 200 millions de personnes, possiblement, seraient prêtes à témoigner qu'ils ont assisté à un miracle. Ça, c'est quand même pas rien à échelle humaine, puis ça parle beaucoup de l'être humain, puis du cœur humain, puis de la personne humaine. Et pas seulement pour dire, on va étudier le phénomène religieux pour comprendre l'être humain qui est porté au religieux. Non, c'est pas juste que les gens sentent le besoin de croire dans un être invisible, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ont vu un miracle se produire ou ils ont vécu eux-mêmes un miracle. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, François. Il y avait quoi? Oui. Oui. C'est surprenant de voir à quel point il y avait des réponses aux prières. Oui. Ben, ça serait un peu dans ce sens-là que Blomberg irait aussi. Le problème, évidemment, c'est que si ta vision du monde, c'est que Dieu n'existe pas et qu'on est juste de la matière, c'est peut-être pas des choses que tu veux étudier en ouvrant la possibilité que ce soit réel. Tu vas plutôt l'étudier comme un phénomène psychologique. Qu'est-ce qui dispose l'être humain? Oui, mais il faut quand même que tu ailles voir. Il y a quand même beaucoup de gens qui en rapportent de ces trucs-là. Comprenez? Puis je comprends qu'en même temps, il y a des émissions américaines qui spécialisent à aller visiter des maisons où ils disent avoir vu des phénomènes paranormaux, puis ils réussissent presque à démontrer dans tous les cas qu'il y a une explication scientifique, d'accord? Moi, je suis ouvert. S'ils veulent venir m'interviewer pour me donner l'explication scientifique à mon affaire, je suis ouvert. D'accord? J'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est quand même un élément intéressant. Puis les conclusions que Blomberg en tire, c'est, si je vais complètement au bas de ma page 2, aucun chrétien ne devrait avoir à justifier Dieu dans sa volonté d'exercer des miracles exceptionnellement afin de continuer à garder la foi. D'accord? Et on est tellement attaqué sur ça que souvent les chrétiens, on a même l'impression qu'on doit essayer de pouvoir expliquer cette affaire-là. Je ne devrais pas avoir à le faire. Il y a trop de gens quand même qui rapportent ça. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas absent du tout. L'athéisme doit être en mesure, au contraire, d'expliquer toutes ces manifestations scientifiquement inexplicables, soit s'il affirme être la seule vision du monde scientifiquement acceptable. Alors, si lui dit « Non, ça n'existe pas des miracles », explique quand même tous les miracles rapportés. D'accord? Nous dirons donc que cela demande au moins autant de foi non fondée sur une approche empirique pour être athée que pour être chrétien. Ça va? Évidemment, il y a toute la question. Oui? Oui, je vais répéter la question, juste pour parler du frère André, là. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Alors, la question de monsieur, votre nom, c'est? Roger. La question de Roger, c'est comment expliquer tous les miracles rapportés ou attribués au frère André à l'oratoire Saint-Joseph? Si vous n'êtes pas allé à Les Jeunes, je pense, là, si vous n'avez pas visité l'oratoire Saint-Joseph, ça s'impose. Si vous voulez connaître un tout petit peu votre histoire, c'est un minimum. Je vous dirais, quelqu'un qui veut approcher ça objectivement, c'est-à-dire qui ne va pas juste dire « tous les miracles rapportés sont faux », mais qui va dire « peut-être qu'il y en a là-dedans, effectivement, qui sont là », il y a probablement plusieurs éléments possibles. D'abord, Dieu peut faire des miracles en réponse aux prières de n'importe qui. D'accord? Puis on en a dans la Bible qui sont rapportés. Vraiment des païens qui prient ou qui demandent, puis Dieu fait un miracle. Donc, Dieu peut faire des miracles en réponse absolument à n'importe qui. Ça fait partie de ce que j'appellerais la grâce commune. la même manière que le soleil se lève sur les bons et sur les méchants, Dieu peut répondre à des prières de n'importe qui. Donc, Dieu a pu le faire. Probablement qu'il y en a plusieurs qui ne relevaient pas du miracle. Lorsqu'on a chaque fois qu'il y a eu des phénomènes de masse de miracles rapportés, il y en a des éléments qui n'étaient pas vrais. Lorsqu'on l'étudie nous-mêmes, les évangéliques, lorsqu'on étudie, par exemple, les périodes de réveil, les grands réveils spirituels, quand on prend le temps de les étudier, Dieu intervient par son esprit, puis là, il y a une espèce de réveil spirituel qui est en train de se produire. Il y a des conversions en masse qui se passent. Dans tous les cas, il y a des excès, il y a des charlatans, puis il y a des gens qui sont juste en train de flyer. Puis ces fruits-là ne demeurent pas. Jésus en parlait de fruits d'enthousiasme qui sont là lorsqu'il parle de la parabole des quatre temps. Donc, probablement qu'il y en a qui relèveraient aussi de cet ordre-là. Puis possiblement, si cet homme-là, je vous avoue que je n'ai pas étudié le frère André, j'ai pas étudié tous ses enseignements, mais s'il enseignait bien l'enseignement de l'Église catholique, il enseignait aussi beaucoup d'hérésie. Et donc, possiblement aussi qu'il y avait des choses qui venaient d'ailleurs que de Dieu, qui étaient quand même d'un domaine surnaturel. Oui, François, est-ce que ça répond un peu? OK. Bon, on pourra jaser ensemble, si vous voulez, de ça. Ça va me faire plaisir. Oui, OK. Oui, François. Peux-tu parler plus fort un peu? OK, intéressant. Oui. Oui. Bien, d'ailleurs, ce serait une autre lecture à faire si vous ne l'avez pas fait, Charles Chiniqué. Je m'excuse, il faut que j'avance. Il me reste comme 10 minutes. Puis on a quelques éléments à voir encore. D'accord? Sur la question du fait que si Dieu fait des miracles, pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas plus souvent? C'est parce qu'on appelle ça des miracles. OK? Mais je veux dire, c'était comme ça dans la Bible aussi. D'accord? Fait que dans la Bible, les miracles, lorsqu'il y en a beaucoup, c'est dans des moments très isolés dans l'histoire. Lorsqu'on survole tout l'Ancien Testament, les périodes où il y a eu beaucoup de phénomènes surnaturels manifestés sont très, très, très concentrés. Autrement, ça va être sporadique. C'est la même chose sous le ministère de Jésus. On est obligé de déduire que la concentration, la quantité de miracles par des guérisons, multiplication de pain, tout ça, que Jésus a opéré, et ben, d'abord, c'est clair dans le texte que c'était là essentiellement pour attester qui il était, ça c'est très clair. Mais certains vont dire, oui, mais attends un peu, il a promis qu'on allait faire plus encore. C'est évident, juste dans le récit du Nouveau Testament, que le plus qu'on va faire encore, c'est de répandre sa parole, de voir des milliers, voire des millions de personnes se convertir au christianisme. Et ce miracle-là, très quotidien, très, très personnel et réel, de la nouvelle naissance, tous les chrétiens l'ont vécu, autrement ils ne s'appellent pas chrétiens, d'accord? Mais peut-être qu'ils ont le nom, mais ils n'ont pas le cœur. Ça va, ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Donc, les miracles demeurent toujours une intervention surnaturelle, exceptionnelle de Dieu. Et c'est une erreur dans un mouvement évangélique de dire, non, il faut que ça devienne le quotidien, l'immédiat. En même temps, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens, dont je suis, qui sont vraiment portés à se cacher derrière du rationalisme, pour ne pas faire acte de foi, pour ne pas prier avec foi. D'accord? Fait que moi, je ne pense pas qu'on est toujours dans l'équilibre, dans les milieux qui sont moins charismatiques. D'accord? Parce que je pense qu'on se cache derrière un certain rationalisme pour ne pas oser prier avec foi, puis s'attendre à ce que Dieu fasse. Ce qui fait qu'on va prier pour la guérison de quelqu'un, puis dans le fond, tout de suite, c'est important de dire que ta volonté soit faite. De toute façon, il va la faire, sa volonté. On s'entend-tu là-dessus? Il ne fera pas la tienne. D'accord? Mais on est juste en train d'exprimer qu'on a zéro foi. Ça va? Alors, une autre des questions qui est soulevée ou une autre comparaison qui est faite, c'est que des gens vont dire, ben les miracles qu'on trouve dans la Bible sont les miracles qu'on trouve dans toutes les grandes mythologies. Et donc, ça fait de la Bible un livre mythologique, un mythe, d'accord? Parce que par exemple, on trouve un paquet de phénomènes surnaturels attribués aux divinités romaines, aux divinités grecques, d'accord? Et donc, ils vont dire, dans le fond, quand tu crois en Dieu, il faut y attribuer du surnaturel, puis c'est juste ça qui est en train de se passer. Ce qu'on trouve dans la Bible en termes de miraculeux, puis le Dieu qui nous est révélé à travers la Bible n'est pas comparable à ce qu'on trouve, par exemple, chez les divinités grecques puis les divinités romaines. Ces dieux-là étaient des dieux aussi bêtes et stupides que vous et moi. D'accord? C'était des gens profondément pécheurs qui étaient là simplement pour des jeux de pouvoir. L'être humain est en train de fantasmer ce qui se passe dans son cœur puis de donner une espèce de sens à tout ça en créant toutes ces divinités-là. Mais ce qu'on trouve ce qu'on trouve dans toute cette mythologie-là, c'est pas des êtres véritablement supérieurs, sinon par des dons, par des pouvoirs. Mais ils ne s'approchent en rien de la sainteté. Et c'est pas pour rien que le monothéisme du judaïsme, avant même que Jésus arrive, opérait déjà une attraction très, très forte à l'intérieur de cette culture-là gréco-romaine. Parce qu'on découvrait un Dieu qui n'est pas comme les êtres humains, qui est vraiment l'idéal de l'être humain. Vous pouvez trouver des philosophes qui vont parler des grandes vertus qui sont uniquement Dieu. Et ces grandes vertus-là qu'ils ont rêvées, puis lorsqu'ils imaginaient des dieux, ils ne pouvaient pas imaginer des dieux qui les vivraient vraiment parce qu'ils imaginaient des dieux à leur image, comme nous dit l'apôtre Paul. Mais là, ils rencontrent tout d'un coup le Dieu des Juifs. Puis après ça, ils vont découvrir le Dieu des chrétiens. Puis là, ils découvrent un Dieu qui ressemble en rien à leur Dieu qu'ils avaient imaginé, mais un Dieu qui est vraiment à la hauteur de toutes nos plus grandes aspirations. Un être qui est vraiment bon. Un être qui est vraiment saint. Un être qui est vraiment juste. Un être qui n'est pas machiavélique, qui n'est pas mesquin. Lorsqu'il juge, c'est la justice qui est exercée. Ce n'est pas sa justice personnelle. C'est vraiment la justice dans sa plus grande beauté. D'accord? Et c'est pour ça donc que ça avait déjà tout un attrait. Alors, les Romains n'auraient pas comparé le Dieu de la Bible à leur Dieu. Ils savaient faire la différence. Ils pouvaient croire ou ne pas croire. D'accord? Mais ils savaient faire la différence entre les deux. Je suis au milieu de la page 3. Nulle part dans aucune mythologie ancienne. Je m'excuse, je vais aller un petit peu plus haut, deux paragraphes plus haut. De plus, la notion d'incarnation réelle du Logos, lorsque je parle du Logos, je fais allusion au mot grec qui est derrière le mot parole dans Jean 1, d'accord, au début de l'évangile de Jean. Il est question de la parole qui s'est incarnée. Retenez ça parce que vous allez le croiser des fois dans des lectures, vous allez l'entendre des fois dans des entrevues, des philosophes qui en parlent, ils parlent du Logos. De plus, la notion d'incarnation réelle du Logos, la parole, le principe fondamental de l'univers, devenu parfaitement homme et le demeurant éternellement. C'est pas comme si tu avais un Dieu qui était apparu sous une forme humaine parce qu'il vient transiger avec les êtres humains, puis après ça, il redevient esprit. Ça, c'est commun chez les Grecs et les Romains. Mais ce Dieu qui s'incarne, et dans un acte de compassion incroyable, devient homme. Je veux dire, oubliez le péché, oubliez sa crucifixion. Déjà, vous avez quelque chose, un geste de compassion incompréhensible juste dans l'incarnation. D'accord? Juste dans le fait qu'il s'associe parfaitement, complètement avec nous et il demeure homme dans l'éternité. Est-ce que ça va? Jésus est encore le Christ, là, celui qui est au début à la création de l'univers, à la création de la terre. Est devenu homme, il est encore homme aujourd'hui. Il n'a pas perdu cette humanité-là. Il y a deux natures en lui maintenant. Vous ne trouverez pas ça nulle part comme notion, comme compréhension de la personne de Dieu. Dans le judaïsme et le christianisme, on ne trouve pas l'idée que l'être humain peut éventuellement devenir Dieu. Une espèce de déification de l'être humain, on ne trouve pas ça, cette notion-là non plus. D'accord? Nulle part dans aucune mythologie ancienne ou dans aucun folklore, nous trouvons le récit d'un être tout à fait humain, qui meurt puis ressuscite d'entre les morts physiquement, et dont des centaines de témoins oculaires transmettent le récit au péril de leur vie sans aucun bénéfice personnel. Ça, c'est l'histoire du début du christianisme. Vous ne trouverez pas ça dans les mythologies. D'accord? Un récit qui ressemble à ça, puis pour lequel des centaines de personnes disent « on est des témoins oculaires », vont commencer à transmettre ça, puis ils vont en mourir. D'accord? Il n'y a pas de... Oui, le christianisme est attaqué souvent parce que c'est devenu un empire, ce qu'on a fait du christianisme, d'accord? Alors, c'est vrai, le pape François actuellement met énormément d'efforts à démontrer qu'il comprend c'est quoi l'humilité, d'accord? Parce que le système qui a été construit dit tout le contraire. Il habite quand même pas dans un shack, on s'entend? Et donc, oui, le christianisme tel que les gens le voient, c'est un empire de domination, c'est ça que ça projette, puis dans l'histoire... Le christianisme a été récupéré politiquement pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Une partie, comprenez, nominalement, dans l'image, c'est ça qui s'est passé. Mais dans la réalité, je veux dire, ces gens-là se faisaient massacrer pour leur foi. Là. Il n'y avait aucun gain, aucun bénéfice personnel. C'est simplement qu'ils étaient convaincus que c'était le cas. Et les récits narratifs dans lesquels nous trouvons certains parallèles avec le christianisme. Alors, on trouve des parallèles avec les miracles que Jésus a faits. D'accord? Il y a d'autres fois, d'autres mouvements, des sectes aussi, qui vont rapporter une espèce de Messie qui ressemble à Jésus. Tout ça, c'est tout apparu après Jésus-Christ. C'est important, là. D'accord? Je donne un exemple. Là. Vous pouvez aller faire des petites recherches sur le web avec ce monsieur-là. C'est un philosophe qui a vécu un peu avant Jésus-Christ, mais ceux qui ont cru en lui, après Jésus-Christ, se sont mis à écrire, puis là, c'est parce qu'on a des documents d'époque qui nous permettent de dire que ça s'est fait après, se sont mis à déifier ce personnage-là. Alors ça, on voit ça souvent. Des gens qui vont... Avec Alexandre le Grand, ça s'est passé, d'accord? Donc, la personne meurt, elle a laissé une trace importante, des gens croient dans cette personne-là, puis commencent à embellir l'histoire, puis finalement à déifier cette espèce de la mémoire de cette personne-là. D'accord? C'est une des questions qu'on a adressées pendant le cours. Est-ce que c'est ça qui s'est passé avec Jésus? On a adressé cette question-là déjà. D'accord? Mais donc, si des gens vous disent, ouais, mais on y en a d'autres messies qui ont fait les mêmes miracles que Jésus, ouais, c'est juste que ça a été. Étrangement, ils sont tous apparus après Jésus. Tu sais, après que le christianisme frappe fort, puis c'est un bon coup de publicité, là, eux autres sont apparus après. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est un petit peu louche. Je vais devoir m'arrêter ici et vous laisser lire la conclusion. Tout ce qu'on développe très, très brièvement, c'est l'idée suivante. Puis je vais terminer avec ça. C'est l'idée suivante. Il est moins 10, OK? C'est juste que moi, je dois me retirer. Le miraculeux dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui est rapporté pour faire un coup d'éclat. OK? Lorsque les gens qui n'ont pas lu la Bible, qui n'ont pas étudié la Bible, entendent parler de ça, ils placent ça comme dans des affaires flyées, ça discrédite la Bible parce que c'est une affaire juste de phénomène pour impressionner tout ça. Ce n'est pas le cas. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a des miracles qui se produisent, dans la quasi-totalité des cas, Dieu est en train d'enseigner aux hommes. Quand Dieu fait un miracle, il est en train de se faire connaître aux hommes. Il est en train de se révéler aux hommes. Et pensez par exemple, parce que des fois on va dire, il y avait des divinités de l'époque de l'Ancien Testament à qui on attribue des choses aussi incroyables que ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Ben oui, en pensez aux 10 plaies d'Égypte. C'est clair que le Dieu d'Israël est en train de faire des choses qui pourraient être attribuées aux divinités égyptiennes. Excusez-moi l'anglicisme, il est en train de faire un point là, ici. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, écoutez, c'est des morceaux de bois, des morceaux de pierre dans lesquels vous croyez, les miracles que vous leur attribuez, c'est en rien comparable. Si vous voulez, on va le faire 10 fois. Okay? 10 fois, je vais vous démontrer que vous ne devriez pas placer votre foi dans ces idoles-là, vous devriez les placer dans le seul et unique Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Donc, quand il y a des miracles dans la Bible, dans presque tous les cas, Dieu est en train de se révéler à travers ça. C'est vrai dans le cas de Jésus, D'accord? Si vous êtes familier avec les évangiles, même l'apôtre Jean va les appeler, il va les appeler des miracles signes. Ce sont des signes lorsque Jésus fait des miracles parce qu'ils sont là pour qu'on comprenne qui il est vraiment. Non seulement qu'il est l'accomplissement de l'Ancien Testament, mais plus encore qu'il est, par exemple, le pain de vie. Il multiplie des pains. Il est le pain de vie. Il est Dieu incarné. On se rend jusque-là, d'accord, avec les miracles. Quand on arrive dans les actes, à quoi servent les miracles dans les actes? Ils nous montrent, parce que la majorité des miracles que vous trouvez dans les actes, vous pouvez voir que Luc est en train de dire l'Esprit qui est en Jésus était dans les apôtres, il était dans les premiers disciples aussi, et donc ils font des miracles qui ont des corollaires dans les évangiles. D'accord? Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, cette œuvre-là, là, c'est la même, il y a une continuité qui est en train de se faire ici. Et donc, même les miracles que j'ai dans le livre des actes servent à quelque chose. Il y a une leçon qui est là. Quand les gens viennent et vous disent le miraculeux discrédite la Bible, bien, une des choses à faire, c'est d'aller vers ces leçons-là pour comprendre quel sens ça a. Est-ce que ça se peut que Dieu ait voulu te faire connaître l'être invisible qu'il est dans sa grandeur absolue en nous enseignant une leçon à travers cette intervention surnaturelle-là? D'accord? Alors, ce n'est pas juste le terme français, ce n'est pas de l'esbroufe, c'est pas pour en jeter plein les yeux, puis ça n'a aucun sens. Ça a toujours un sens très, très profond. Autrement, Dieu suit les lois de la nature. Ça va? Autrement, Dieu suit les lois de la nature. Alors, j'espère que le cours vous a, la première partie du cours, a clarifié des choses, affermi des choses dans votre vision du livre, de la Bible que les chrétiens on a. J'espère que la deuxième partie vous a donné un petit peu de regain, puis clarifié des choses aussi pour pouvoir discuter avec des amis ou fortifier votre foi. Je vous invite à soit aller lire les livres, soit aller écouter les leçons, tout ça, puis à continuer cette réflexion-là, d'accord? On va terminer ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, Père, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. C'est beaucoup de travail, Seigneur. C'est beaucoup de travail. Développer, maintenir, grandir dans une foi solide à notre époque. Époque, Seigneur, où ta parole est questionnée, est interrogée, remise en question. C'est beaucoup de travail aussi, Seigneur, parce que la Bible est riche. Et il y a tant de choses à étudier dans ce livre merveilleux qui nous parle de toi, Seigneur. Mais ça vaut la peine, Seigneur. Ça vaut la peine pour te connaître. Pour t'avoir là au centre de nos vies. Pour que tu sois notre espérance, Seigneur. Et pour qu'on puisse parler avec une grande assurance. Une grande liberté. De cette espérance qui est en nous, celle du salut en Jésus-Christ. Je te prie pour cette Église, Seigneur, je te prie pour notre assemblée, je te prie de faire de nous des gens qui connaissons la Bible sur le bout de nos doigts, Seigneur. Apprends-nous à l'aimer, à la chérir, à t'adorer en la lisant, Seigneur, en l'étudiant. Apprends-nous à la voir sur le bout de la langue pour pouvoir la partager aussi entre nous, pour s'édifier mutuellement, mais aussi avec toutes les personnes qu'on croise, qui ont tellement besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta sainte parole. Je te prie, Seigneur, de nous bénir, de continuer à nous faire grandir dans ta loi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.